Chapitre 22. Vicky. Rive du Tarn, Florac. Hans Bernard. Vicky tenait toujours la liste des élèves fournie par Mathieu Mariotta et relisait le nom et le prénom de l'homme qu'elle aimait. Hans figurait sur cette liste. Il ne lui avait pas menti. Il avait bien passé son enfance à Florac. Hans n'était pas un fantôme, juste un petit gamin d'ici. Elle laissa son souffle s'apaiser, rassurée. « Mathieu, demanda-t-elle avec une douceur d'infirmière, pouvez-vous me parler de lui, de ce petit Hans que vous trouviez si attachant ?»«
Oh !» répondit le vieil instituteur en grattant son crâne dégarni. « C'était il y a longtemps, très longtemps. »«
Pas tant que ça, » pensait Vicky. Mais les horloges du cœur des amoureuses tournaient sûrement plus vite que celles des retraités. Mathieu se grattait toujours le crâne à la recherche d'un souvenir qui aurait repoussé. Nicole continuait de gesticuler derrière, Vicky commençait à douter.
« Mathieu, avez-vous des photos de lui ?»«
Bien entendu, je vais les chercher. »
Le vieil instituteur se leva. Ses chaussons reprirent leur lent glissement silencieux et soyeux. Dès qu'il disparut à nouveau dans le bureau, sa femme siffla.
« Je vous l'avais dit, ce nom, il ne s'en souvenait pas. Vous espériez qu'il soit sur cette liste, n'est-ce pas ? Alors vous avez votre réponse. » Mais pour le reste, ne lui faites pas confiance, il invente tout, il est gaga. »
Mathieu revenait en portant un imposant album. Il se cala dans son fauteuil avant de tourner avec précaution les pages. Les photos des élèves, de simples photocopies piquetées et jaunies, défilaient. Des centaines de visages. Mathieu avait raison au fond, tout était vieux, si vieux. Il s'arrêta enfin et posa l'album ouvert sur les genoux de Vicky, le temps d'attraper ses lunettes. Elle baissa aussitôt les yeux vers une double page où étaient alignés les portraits d'une vingtaine d'élèves, tous sages et sérieux, fixant l'objectif du photographe scolaire. Une nouvelle décharge l'électrisa. Elle était persuadée d'avoir reconnu Hans sur la troisième ligne, déjà un peu rêveur, un peu ailleurs. C'était l'occasion inespérée de tester la mémoire de Mathieu Mariotta.
« Mathieu, demanda-t-elle avec innocence, s'il vous plaît, pouvez-vous me montrer Hans ?»
L'instituteur pointa son doigt sans hésitation sur le rêveur blond cuivré.
« Chez lui !»
Vicky sentit une intense bouffée de chaleur la submerger.
« Non, Mathieu Mariotta n'était pas gaga. Oui, il se souvenait parfaitement de Hans, ce petit garçon délicat. »
L'instituteur récupérait déjà son album, le plus précieux de tous ses trésors. Il leva les yeux et sourit à Vicky.
« C'était un test, c'est ça ? Comme ceux que me font passer ces crétins de médecins, ces charlatans que ma douce moitié me force à consulter. »
Nicole Mariotta, toujours en faction derrière le fauteuil de son mari, grimaça. Elle tordit bizarrement ses doigts, telle une sorcière qui lance des sorts maladroits.
« Pas du tout, » se défendit Vicky en rougissant. « C'était juste pour... Hans avait de merveilleux yeux gris, » enchaîna l'instituteur.
« Des yeux de carbone, de graphite, ou de lave incandescente qui auraient durci. » Quand il vous regardait avec colère, ses iris devenaient deux mines de crayon, prêts à tracer les pires mots sur vous. Et l'instant d'après, son regard se faisait doux, comme s'il gommait tout. Il se déplaçait avec une grâce étrange aussi, à la façon d'un oiseau aux pattes trop raides, aux ailes encombrantes, mais dès qu'il les déployait...
Il s'envolait, termina Vicky dans sa tête. Ce regard, cette démarche, c'était Hans, c'était forcément lui.
Sans doute avait-elle rougi. Mathieu lui lança un regard tendre.
« Hans est votre amoureux, n'est-ce pas ? Il a de la chance d'avoir une fiancée aussi jeune et jolie. »
La sorcière dans son dos s'apprêtait à jeter de nouveaux sorts, et Vicky serait cette fois dans la ligne de tir. Mathieu Mariotta s'adressa à sa femme sans même tourner la tête.
« Tu vas me chercher mes comprimés de tramadol, ma chérie ?»
Nicole grogna, rechigna, mais elle n'avait pas le choix. Dès qu'elle disparut dans la cuisine, Mathieu posa sa main sur les genoux de Vicky.
« J'ai d'autres souvenirs, mademoiselle. Je me rappelle la mère de Hans aussi. Ma femme ne l'aimait pas. C'était le cas de la plupart des femmes de Florac, d'ailleurs. La mère de Hans était, comment dire, un peu trop artiste. »
Le vieil instituteur avait prononcé ce dernier mot, « artiste », comme s'il conférait à la mère de Hans une aura presque sacrée.
« Quel genre d'artiste ? » ?»«
Un peu tous les genres, en vérité. Danse, chant, théâtre, dessin... mais elle les regroupait tous en un. Elle était marionnettiste.
Vicky emprisonna les bras potelés de Casper entre ses doigts. L'automate cassé de sa fille était toujours coincé entre ses genoux. La maman de Hans intervenait dans les écoles des alentours.
continuait Mathieu. Elle posait son castelet et organisait de petits spectacles à Noël ou aux anniversaires.
Ces marionnettes, elle les fabriquait ?
Oui, elle possédait son petit atelier. Elle avait offert ses créations à tous les enfants de la commune. Je crois que la plupart des familles les ont gardées. Aujourd'hui, les mères les transmettent à leurs filles ou leurs petites filles.
Des marionnettes comme celle-ci ?
Mathieu remonta ses lunettes sur son nez et examina Casper.
Oui, aucun doute. C'est bien une des poupées de Marion.
Marion ? Répéta une voix dans leur dos. Nicole Mariotta agita sous le nez de son mari la gélule blanche et un fond de verre d'eau.
T'es incapable de te rappeler la date d'anniversaire de tes enfants, et encore moins la mienne, mais tu te souviens du prénom de cette cinglée.
Mathieu se contenta d'adresser à Vicky un sourire de prisonnier résigné qui va devoir bientôt quitter le parloir. Elle serra Casper contre son cœur. Un instant, elle hésita à se lever, à marcher vers la fenêtre et chercher sa fille des yeux, mais son envie d'en apprendre davantage sur Hans fut plus forte. Jamais son camionneur cachotier ne lui avait avoué d'où lui venait cette passion des marionnettes et ce talent pour les réparer.
Vous souvenez-vous d'autres détails ?
Nicole Mariotta haussa les épaules, rapprocha son verre, menaçant d'enfourner la pilule dans la bouche de Mathieu dès qu'il l'ouvrirait.
« Quelques-uns, »
marmonna l'instituteur en retraite, presque sans desserrer les lèvres.
Hans était un enfant un peu fragile, souvent malade.
Sa mère partait parfois en tournée, mais elle revenait toujours.
Pas une année, elle n'a oublié de jouer son spectacle préféré à la kermesse. Bénévolement, discrètement, elle ne voulait même pas que les journaux locaux en parlent. Pourtant, Marion était sacrément douée. Cette fois, Mathieu était resté coincé dans son passé, yeux trop fixes, bouche béante. Sa femme lui enfourna la gélule et claqua le verre contre ses dents.
« Avale, et arrête de raconter des salades !»« Vous savez, madame, son soi-disant opéra, c'était juste un castelet miteux bricolé par une bohémienne qui a foutu le camp depuis longtemps. »
Mariotta n'avait pas desserré la mâchoire, croquant le verre au risque de le briser.
« Il confond tout !» insistait Nicole Mariotta. « Les mômes, les mamans, les années, avale, je te dis !»
Vicky hésita une dernière fois à s'avancer vers le jardin, à appeler Lola, mais prit le temps d'une ultime question.
« Mathieu, vous vous souvenez du nom de ce spectacle ?»
Il hésita, puis soudain ouvrit la bouche. L'eau coula, le médicament aussi. L'instituteur toussa comme s'il allait s'étouffer, puis déclara sans respirer.
« Comment l'oublier ? C'est le plus beau spectacle qu'on ait jamais vu ici.
Si vous saviez à quel point tout cela me manque aujourd'hui. On l'attendait toute l'année, le mort, la ballerine, et évidemment Petrouchka. » Lola se tenait devant la grille d'entrée du jardin, les deux hommes au visage brûlé d'un côté de la barrière et elle de l'autre. Au début, Lola avait tenté de fixer son regard sur la marionnette noire que l'homme sans oreille lui tendait, seulement sur elle, le frère jumeau de Casper. Mais au final, elle s'était habituée à leur tête bizarre et parvenait maintenant sans dégoût à poser ses yeux sur leur figure cloquée.
Maman avait raison, on est tous différents. Ce n'est pas parce qu'on est moche qu'on est méchant, c'est même le contraire souvent.
Elle dévisagea celui aux lunettes de soleil.
Toi, tu ne peux pas voir, c'est ça ?
L'aveugle fit pivoter son visage en direction de la voix, puis releva ses lunettes noires. Ses yeux étaient aussi blancs et inexpressifs que ceux d'un poisson mort.
C'est ça.
Lola ne put s'empêcher de sursauter et tourna vite la tête vers celui qui n'avait pas d'oreille.
Et lui, il me voit, mais il m'entend pas.
L'homme scrutait chaque mouvement de ses lèvres.
C'est ça. Fit l'aveugle. Mon frère est sourd et muet.
Lola resta un moment à passer d'un visage écorché à l'autre, cherchant à comprendre comment ces deux hommes, avec un tel handicap, pouvaient affronter la vie de tous les jours.
Du coup, demanda Lola, vous ne pouvez pas vous séparer ? Toi, tu as besoin de lui pour voir, il est tes yeux, et lui, il a besoin de toi pour entendre, t'es ses oreilles.
Tu as tout compris, confirma l'aveugle. Dis-moi, t'es plutôt maligne pour une petite fille de 5 ans.
L'aveugle lui souriait, mais Lola restait sur ses gardes, un truc clochait.
Si t'es aveugle et que tu me vois pas, comment tu sais mon âge ?
Mon frère me l'a dit.
Il parle pas, ton frère ?
Non, mais il m'écrit tout ce qu'il voit.
Pour le confirmer, l'aveugle tendit vers elle le portable qu'il tenait dans la main. L'écran était plus grand que celui d'un téléphone normal. Lola hésita, puis avança d'un pas supplémentaire jusqu'à la grille du jardin. L'aveugle chercha à tâtons la main de Lola.
« Touche la tablette, tu vas comprendre. »
La fillette ne se laissa pas attraper, mais passa son index sur l'écran. Elle sursauta. L'écran n'était pas lisse. Elle sentait sous son doigt des centaines de bosses et de creux, un peu comme quand on a la chair de poule.
« Ça chatouille le bout des doigts !» frissonna Lola.
« C'est du braille, » expliqua l'aveugle. « Avec de l'entraînement, on peut l'écrire et le lire encore plus vite qu'avec des vraies lettres. Tu comprends maintenant ? Mon frère possède la même Inside One. C'est le nom de la tablette. Il m'écrit tout ce qu'il voit, et je lui écris tout ce que j'entends. »
Curieuse, Lola se tourna vers le sans-oreille. Effectivement, lui aussi tenait un autre téléphone à écran géant dans sa main, celle qui ne soulevait pas le frère jumeau noir de Casper au-dessus de la barrière. L'aveugle continuait de faire danser ses doigts.
« Et là ?» demanda Lola. « Tu écris quoi ?»«
Que tu as une jolie voix. »
« Et lui, il te répond quoi ?»«
Que tu es jolie. »
Lola bondit d'un coup en arrière, tel un petit chat craintif. À bonne distance de la barrière, elle regarda l'aveugle avec méfiance.
« Tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire, jolie. Tu ne vois rien. »«
Si, je me souviens. »
La fillette se mordit les lèvres. Elle n'avait pas pensé à ça.
« Ah, tu voyais avant ?»«
Oui. » »«
Et tu as eu un accident ?»«
Oui. » Mais je préfère ne pas en parler. Approche, Christophe a quelque chose à te montrer.
Lola ne s'approcha pas.
Ton frère s'appelle Christophe ? Et toi ?
Amos. Approche, on te fait peur ?
Lola se défendit immédiatement.
Non, maman m'a dit qu'il fallait pas.
Mais maman ne t'interdit pas de jouer à la poupée.
Aussitôt Christophe fit danser le frère jumeau de Casper au-dessus de la grille du jardin. Le pantin virevoltait tel un lutin. Lola n'était plus un bébé, elle savait que c'était la main invisible de Christophe qui le faisait bouger. Mais il était si doué qu'elle aurait presque pu jurer que l'automate était vivant, qu'il agitait son sabre pour de vrai. Lola aurait tant aimé le...
« Prends-le !» proposa Amos. « Il est pour toi !»
Lola tendit la main, mais Christophe tenait le jouet trop loin, trop haut. Lola devait encore s'approcher, presque se coller à la grille.
« Il s'appelle comment ?» demanda Lola. « Le mien c'est Casper, mais il est cassé. » « Papa a promis de le réparer. »«
Tu sais, Lola, s'il n'y arrive pas, j'ai beaucoup d'autres marionnettes à te montrer. Des filles et des garçons. Il y en a pour tous les enfants du village. Elles sont dans ma voiture. Tu veux en choisir une ?»«
J'ai pas le droit, »
affirma Lola avec assurance.
« Tu as au moins le droit de regarder. »
Comme par magie, la grille du jardin s'ouvrit. Lola fit un pas, rien qu'un pas. Un peu plus loin, le long du Tarn, une voiture argentée était garée. Maman lui avait toujours interdit de parler aux inconnus, mais elle lui avait aussi interdit de dire du mal des gens différents, des handicapés, des personnes âgées, des... Lola s'arrêta soudain de penser, de bouger. Amos, de l'autre côté de la haie, tout en continuant de sourire dans le vide, se tenait appuyé sur une canne. Une canne blanche, blanche et rouge, tachée de sang. Lola voulut crier, voulut courir, voulut s'enfuir, mais une grosse main poilue se colla sur sa bouche et la souleva. Elle sentit une odeur de sueur sur elle, sans pouvoir lutter. Elle n'avait pas assez de dents pour mordre, pas assez d'ongles pour griffer, pas assez de force dans les pieds pour frapper, juste ses yeux pour pleurer. Elle ne se retint pas quand elle entendit la voix d'Amos, devenue aussi coupante qu'elle était douce un instant auparavant.
« On se tire, on va faire un tour dans les gorges du Tarn. On sera plus tranquille pour ce qu'on a à faire. »
Christophe ne pouvait pas l'entendre. C'est donc à elle que l'aveugle parlait. Lola hurla, mais son cri s'étouffa dans la paume qui la bâillonnait.